Radko Mladic a passé sa première nuit à La Haye, aux Pays-Bas, où il sera présenté d'ici la fin de la semaine au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPI. Eh bien, profitons-en pour essayer de comprendre comment fonctionne cette juridiction. Bonjour Claude Jordan.
Bonjour.
Vous avez été le président de ce tribunal. Je disais TPI, on peut même dire TPI grec, car il y a des TPI pour d'autres affaires.
TPI Y, pour le différencier du TPI R, qui concerne le Rwanda.
Comment il fonctionne ce tribunal? Sous l'autorité de qui est-il?
Alors, c'est un tribunal qui a été créé, on l'appelle un tribunal ad hoc, c'est-à-dire qu'il a été créé, pour vos auditeurs, il a été créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, unanime pratiquement, en tout cas il n'y a pas eu de droit de veto de la Chine et de la Russie, et pour la situation en ex-Yougoslavie en 1993. Une année après d'ailleurs, le même Conseil de sécurité a créé un tribunal TPI R pour le Rwanda, compte tenu du génocide rwandais.
Précisément, ce type de tribunal est saisi pour quelles affaires?
Alors, il est saisi pour...
Pour quelles affaires?
Il est créé lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur la base d'un texte unanimement connu, en tout cas par les spécialistes, le chapitre 7, décide de créer ce tribunal. Alors, décide de créer ce tribunal, c'est pas tous les jours. Il n'y en avait pas eu, pratiquement depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil de sécurité a décidé de créer, s'est mis d'accord pour créer un tribunal pour juger les criminels de guerre ou les hauts dirigeants politiques, compte tenu du déroulement de ce qui se passait au cours des guerres balkaniques de 92 à 95.
Le précédent, c'était Nuremberg, c'est ça pour,
Oui, le précédent, c'est Nuremberg, qui était créé dans un contexte tout à fait différent, mais qui est un exemple très important dans la mesure où il avait tracé une voie.
C'était pour les nazis,
de la deuxième. Une voie aurait été possible, c'était de créer, ce qui a été créé depuis, une cour pénale universelle permanente. Depuis le traité de Versailles de 1918, on en rêvait, ça ne s'était pas produit, ça s'est produit en 2003. D'ailleurs, j'ai été juge à ce tribunal.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de création de TPI, ce sera que la Cour pénale internationale qui va prendre les affaires futures?
Beaucoup plus compliqué que ça. La Cour pénale fonctionne sur la base d'États qui ratifient et signent, donc volontaires, pour créer cette Cour. À l'heure actuelle, il y a 116 États qui ont accepté de signer et ratifier. Les tribunaux dont je parle, dont notamment l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, mais on pourrait citer la Sierra Leone, et on pourrait citer le Liban, on pourrait citer, je crois, le Cambodge, par exemple, sont créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui veut dire, très important pour vos auditeurs, que tous les États inscrits qui sont membres des Nations Unies sont tenus d'exécuter les décisions de ces tribunaux. Alors qu'évidemment, pour la fameuse Cour pénale permanente universelle, seuls les États qui ont été volontaires pour signer et ratifier cette Cour sont tenus par les décisions de cette Cour.
Différence importante qui méritait d'être soulignée. Ce genre de tribunal est saisi pour des infractions à la Convention de Genève, pour des violations des lois de guerre.
Convention de Genève, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Voilà les trois grandes infractions.
Ce qui est le cas de Radko Mladic. Pierre Benazé, vous êtes à La Haye pour France Info. Comment vont se passer les choses pour Radko Mladic à présent?
Maintenant qu'il est installé pour plusieurs années dans la prison de Skevning, les seules sorties que Radko Mladic peut espérer seront les déplacements vers La Haye et le tribunal, à quelques kilomètres à peine. Et dans l'immédiat, l'ancien chef militaire de l'armée des Serbes de Bosnie attend sa comparution initiale, une audience où sera lu l'acte d'accusation pour crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide, un acte d'accusation qui est prêt depuis déjà 16 ans. Frédéric Swinen, conseiller spécial du procureur du TPI.
Depuis 1995, pas longtemps après les crimes commis à Srebrenica, il y a eu un premier acte d'accusation qui comprend le génocide de Srebrenica. Il y a eu une révision en 2002, une mise à jour. Là, nous avons redemandé une mise à jour de l'acte d'accusation qui est plutôt une clarification. Déjà, une chose qu'il faudra faire, c'est mettre en place une équipe de juristes, d'enquêteurs, d'analystes. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un procès qui est bien géré et qui se termine le plus vite possible.
Le bureau du procureur souhaite en effet accélérer les procédures à l'encontre de Radko Mladic, autant que faire se peut, avec le délai nécessaire à la défense pour éplucher les milliers de pages du dossier et la nécessité d'organiser la venue des témoins. Le procès pourrait ne pas commencer avant le début de l'an prochain. Ce serait alors le 20e anniversaire du début du siège de Sarajevo par les troupes troupes de Ratko Mladic. Et pour accélérer le cours des choses, le procureur n'exclut pas de joindre son procès à celui de Radovan Karadzic, en particulier pour les massacres de Srebrenica, où les chefs d'accusation sont identiques. La Haye, Pierre Benazet, France Info.
Claude Jorda, ancien président de ce tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Pourquoi est-ce que c'est si long, les jugements? On vient d'entendre, là, pour accélérer, on pourrait associer Mladic à Karadzic, qui lui est déjà depuis trois ans.
La question d'abord de la longueur en général de ces procédures. Elle tient bien sûr beaucoup à la mise en place d'un système dit accusatoire. On en a beaucoup parlé ces temps-ci à l'occasion d'autres affaires. Et la procédure dite de common law est une procédure qui est très longue parce que le juge est un juge en quelque sorte un peu neutre qui arbitre entre ce que développe l'accusation, ce que développe la défense. Je passe. Ce sont des procédures extrêmement lourdes. Nous avions essayé de les simplifier en instituant une sorte de juge, non pas d'instruction, mais de juge d'enquête préliminaire, qui d'ailleurs, que nous avons mise en place, et qui permet quand même de débroussailler un certain nombre de questions procédurales avant de procéder au procès en lui-même. Il n'en demeure pas moins que c'est très long. C'est très long à la Cour pénale internationale, c'est très long au Liban, pour le tribunal du Liban, c'est très long au Cambodge, c'est très long, ce sont des procédures très longues. Et j'ajouterai, c'est Claude Jorda qui le dit, trop longue et injustement longue. C'est-à-dire que je pense que s'il doit y avoir, pour développer un peu votre émission, s'il doit y avoir un devenir, ce que je souhaite pour la justice pénale internationale, il faut faire un effort de clarification et de simplification de la procédure, hors de quoi je crois que les victimes ne s'y retrouveront jamais.
À preuve, Milosevic qui est mort avant d'être jugé.
Et à mon avis, dans la mesure où les États ne sont pas toujours très coopératifs, ça ne fait que rallonger les délais. Ce sont en plus des juridictions extrêmement coûteuses. Il faut faire venir les victimes, qui sont des témoins en quelque sorte, il faut les faire venir, il faut envoyer des équipes d'enquêteurs. Donc à mon avis, quand on dit que le procès Mladic risque de commencer, ou a des chances de commencer, j'espère, début 2012, j'espère que ce sera une réalité.
Pour bien fonctionner, vous le dites, le TPI a besoin de la coopération des États, et ce ne fut pas le cas avec la Serbie, qui avait sans doute de longue date, le dites-vous aussi, connaissance de l'endroit où se cachait Mladic. Alors, Laurent Rouy, vous êtes à Belgrade pour France Info sur cette question.
L'arrestation de Ratko Mladic a-t-elle été négociée à l'avance avec le criminel lui-même? C'est la thèse du très sérieux journal croate Jutarnji List qui avance que les autorités serbes ont négocié avec Ratko Mladic pendant plus de un an les détails de la reddition. Ratko Mladic aurait ainsi obtenu des garanties quant au sort réservé à sa famille, le versement d'un arriéré de pension de retraite de 47 000 euros et la possibilité de se rendre sur la tombe de sa fille. Le gouvernement serbe, lui, aurait pu choisir le meilleur moment pour l'arrestation. Toujours selon le journal croate, les services secrets français, britanniques et allemands étaient informés de ces négociations et y auraient peut-être participé. À l'appui de cette thèse, le journal cite des diplomates sous couvert d'anonymat et note que le propriétaire de la maison où a été arrêté Ratko Mladic est retourné chez lui sans être aucunement inquiété par la police. Belgrade, Laurent Rouy, France Info.
Claude Jorda, est-ce à dire, ce sera notre dernière question qui va être un peu philosophique sur cette justice internationale, est-ce à dire qu'il faut obligatoirement un levier politique pour mettre en marche la justice internationale, ici étant la volonté de la Serbie d'entrer en Europe?
Oui, absolument, je vous répondrai très rapidement, très cursivement, il faut un levier politique. Il ne peut pas y avoir de justice pénale internationale sans le secours du politique en général. Mais inversement, et ça c'est un motif de satisfaction pour terminer votre émission, la justice pénale internationale peut être une justice d'influence. C'est-à-dire que vous mettez en accusation le chef d'État soudanais, vous mettez en accusation M. Milosevic. C'est vrai que sans le levier politique, la justice ne pourra pas fonctionner. Mais d'un autre côté, la mise en accusation par des juges indépendants d'un chef d'État ou d'un haut dirigeant militaire qui a participé à un génocide ou à des crimes contre l'humanité, va finalement, en fin de compte, peser sur les relations politiques entre les États. La Serbie veut entrer dans l'Union européenne, il faut qu'elle apporte son ticket pour entrer dans l'Union européenne. Et ça, sans compter les mouvements internes dans les pays. Un chef d'État, par exemple, au Soudan, qui est mis en accusation par la justice pénale internationale, peut-être qu'au bout d'un moment, de quelques années, il deviendra encombrant dans son propre pays. Mais en même temps, la justice pénale internationale finit aussi par avoir une certaine influence.
Une valeur pédagogique. Merci Claude Jordan,
en
servant d'exemple pour les tyrans en puissance. Claude Jordan, ancien président du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.